Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
En route vers Saint-Jacques à pied par le chemin du Nord, notre auteur découvre Bilbao. Ma deuxième journée à Bilbao me fit découvrir le visage de la ville laborieuse. À l'heure du déjeuner, les restaurants étaient pleins de cadres en costume cravate. Le quartier des affaires ressemblait au 8e arrondissement de Paris. J'avais laissé le sac à dos à la pension, mais mes tongs et mon pantalon sale me désignaient assez comme un extraterrestre. Cependant, l'avantage des grandes villes est de tout tolérer. Le pèlerin y est un corps étranger, mais que nul ne remarque et qui peut déambuler partout comme un fantôme. Les guides de Compostelle conseillent néanmoins d'éviter certaines avenues chics où, pour les commerçants, les pèlerins ne sont pas les bienvenus. J'imagine qu'à Paris, si un marcheur pouilleux dans mon genre s'égarait avenue Montaigne et entreprenait d'acheter des chaussures chez Chanel, il ne serait pas le bienvenu non plus. Je me gardais de ces audaces et rentrai à l'hôtel après avoir visité ce qu'il fallait de musée et d'église, mais sans avoir tenté aucun achat, sinon une livre de pommes chez un fruitier marocain. Il parlait français et je lui demandais s'il y avait beaucoup de gens d'Afrique du Nord à Bilbao. Il me dit d'un air dégoûté « Il y a de tout ici ». Je le quittais sans prendre le risque de l'entendre se plaindre de l'immigration clandestine. Seul dans ma chambre, de plus en plus reposée et dispo, j'étudiais le trajet du lendemain. C'était, à vrai dire, le dernier obstacle qui m'empêchait de quitter sereinement Bilbao. La courte étape jusqu'à Portugalete s'annonçait en effet bien déprimante. Impossible, écrivait le guide, d'échapper aux docks à l'abandon, aux friches industrielles et aux immeubles ouvriers devenus des squats. Et il ajoutait, pour que le marcheur garde néanmoins la foi pendant ses 14 kilomètres, le pèlerin peut se sentir incongru ou perdu dans un tel décor, mais il n'a rien à redouter, nous ne sommes pas dans le Bronx. Une telle perspective n'était pas idéale pour se remettre en marche après la baisse de pression d'une longue et confortable halte. Pour tout arranger, le matin, au moment de partir, je découvris qu'il s'était mis à pleuvoir. Cette fois, ce n'était pas une averse, mais une pluie froide, pénétrante, continue. Je fis traîner les formalités de paiement à la réception, guère pressée de me retrouver dehors. C'est alors que le concierge de l'hôtel me livra une information que je reçus comme un naufragé se saisit d'une bouée. « Vous allez à Portugalete ?» me demanda-t-il d'abord d'un air morne. Les allées et venues absurdes des pèlerins n'intéressent guère les habitants des villes qu'ils traversent. C'était une politesse de la part de cet homme de me poser cette question, peut-être parce que nous étions les seuls réveillés dans cet hôtel minable, où il n'avait même pas encore allumé les lampes. Je répondis que oui, sans empressement, et lui demandai le chemin pour prolonger la conversation. « La première à droite, ensuite vous descendez les marches, ne vous trompez pas de quai. »« De quai ? Il y a deux lignes dans le métro ici. » Le métro. J'avais pensé à tout, sauf à l'existence d'un métro dans cette ville. Il me sembla que c'était la Providence qui l'avait construit tout exprès pour moi, et comme je commençais à prendre les réflexes de mon nouvel état, je vis la main protectrice et bienveillante de Saint-Jacques dans cette infrastructure. Il faut savoir cependant que tous ces moyens déshonnêtes de se transporter, bus, taxi, train, avion, sont sévèrement réprouvés par le pèlerin authentique. Le vrai Jacquet ne connaît que la marche et dédaigne tout le reste. J'avais dérogé à cette règle en prenant un autobus, mais j'avais l'excuse de mes orteils en sang. Cette fois, j'étais bien reposée et rien ne m'autorisait à céder de nouveau au chant des sirènes de la modernité. M'aurait-on parlé de train que j'aurais repoussé cette opportunité, mais il s'agissait d'un métro. J'ai vécu longtemps à Paris et ce moyen de transport m'est familier. Il est synonyme pour moi de trajet en ville. Prendre le métro, ce n'était rien retiré au chemin proprement dit, mais seulement changer de point de départ dans la même ville. L'argument peut paraître spécieux et il l'est, incontestablement. Toutefois, la pensée du pèlerin n'est pas celle de l'homme ordinaire. Il connaît des joies et des peines qui lui sont propres. Les efforts qu'il s'impose sont hors de proportion avec ceux que tolère un sédentaire. De même, ses plaisirs, ou si l'on préfère garder un vocabulaire de forçat, ses remises de peine, sont réglementées par un code pénal très personnel. La sentence, dans le cas du métro, fut prononcée immédiatement par le tribunal que chaque pèlerin porte en lui. Je fus autorisé à employer cette commodité. De tout le chemin, je n'eus droit qu'à deux mesures humanitaires, le bus pour arriver à Bilbao et le métro pour en sortir, et je ne l'ai pas regretté. Je me retrouvai donc, à l'heure où les Basques vont travailler, assis sur le quai d'un métro flambant neuf. Je me rendis compte combien j'étais désormais entré dans ma nouvelle condition d'errant. Avant, je me serais senti incongru, au milieu de tous ces employés propres et ensommeillés, avec mon sac à dos et mes brodequins achetés à Guernica. Mais c'était le contraire qui se produisait. J'étais parfaitement à l'aise et je considérais leur tenue avec curiosité et même une pointe d'apitoiement. Quand je sortis du métro, il pleuvait toujours. Le fameux pont pendulaire qui constitue l'attraction de Portugalete et que les deux sœurs m'avaient vanté était caché par des rideaux de pluie. Je me dispensai de le visiter et pris la direction des fameux Bidegori, les chemins rouges. Je m'abritai dans l'entrepôt d'une usine de colle industrielle pour tirer un surpantalon imperméable de mon sac. C'est un bonheur rare de constater qu'un équipement est adapté et j'eus le plaisir de me sentir bien au sec dans cet accessoire. Les trombes d'eau ne s'interrompaient pas. Pour cette dernière étape en Pays Basque, elle me donnait le privilège de voir la nature dans son intimité, sans nul témoin, vide, relâché. La côte rocheuse, puis les plages, équipées pour recevoir au beau jour les pique-niqueurs et les parasols, étaient glacées, désertes, enroulées dans des voiles d'eau comme des beautés endormies qui auraient cherché à cacher leur nudité dans les draps. Sous les rafales de vent, les embruns salés et la pluie froide, le marcheur connaît dans ces moments d'intempéries plus d'émotions que devant les couleurs d'un jour ensoleillé. L'impression d'appartenir à la nature sauvage, de se fondre en elle, de lui résister, tout en sachant que, si elle insiste, on se laissera rouler par les vagues ou emporter par les bourrasques, est une volupté rare. Tous ne la ressentent peut-être pas, mais la race des pèlerins du mauvais temps existe bel et bien et j'ai le privilège d'en faire partie. Insensiblement, sur ces escarpements de falaises qui surplombent la mer, je m'approchais d'une frontière. Je quittais le Pays Basque et entrais en Cantabrie. Une des dernières visions que j'eus de l'Euskadi fut une de ces scènes hors du temps, comme seul le chemin sait en produire. À un moment, les flèches me conduisirent près d'une autoroute. La voie rapide empruntait un viaduc entre deux collines et son tablier était soutenu par d'immenses piles de béton, hautes de plusieurs dizaines de mètres. Le sentier, lui, descendait la colline et passait sous l'autoroute. À l'abri de ces voies, il ne pleuvait plus. Sur le sentier, à cet endroit protégé, deux hommes discutaient autour d'un cheval. L'un d'eux était un paysan, l'autre était vêtu en cavalier, avec un large pantalon de cuir et un chapeau rond. Ils avaient mis pied à terre et tenaient le cheval par la bride. Je ne pouvais entendre leur conversation, mais le tableau qu'ils formaient, sur le fond vert des collines ruisselantes de pluie, était tout droit sorti de la palette de Murillo. On était n'importe où, mais il y a longtemps. Dans ces siècles où le cheval était la machine de l'homme, où la terre était cultivée par le paysan, et protégé par le cavalier. En d'autres termes, pour le pèlerin qui reconstruit pas à pas son Moyen-Âge, ces hommes étaient des contemporains. Et en même temps, loin au-dessus des têtes, on entendait mugir les camions lancés à pleine vitesse sur l'autoroute et leurs essieux frapper les joints du pont monumental. Rien ne matérialisait mieux l'empilement du temps, les strates de la conscience moderne, dans lesquelles la couche la plus récente ne fait que surplomber celles qui l'ont précédée, et qui laisse intact, quoiqu'enfouie, le passé avec lequel elle prétend rompre. le cavalier remonta en selle. Pendant que je dévalais la colline en suivant les coquilles bleues de Saint-Jacques, je le vis prendre un chemin de terre et grimper vers des maisons toutes blanches qu'entouraient de grands arbres vernis d'eau. Le bonheur du chemin est fait de ces instants qu'ignoreront toujours ceux qui roulent à grande vitesse, là-haut, sur la chaussée sans obstacle du présent.
C'était « Immortelle randonnée » de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.